La Galizie, en fait, de Monterfil, est un festival musical, familial, qui se tourne autour de la culture bretonne. Il a été créé en 1976 et accueille chaque année près de 25 000 personnes. Après deux années de Covid-19 où il n'a pu se tenir, Galizie en fait revient ce week-end, les 25 et 26 juin. Pour parler de ce festival, Gwendal Chevalier est avec nous. Bonjour Gwendal.
Bonjour Clément.
Alors je rappelle, Gwendal, vous êtes administrateur au sein de l'association Carrefour de la Galizie et membre de la commission de programmation. Alors en quoi consiste votre rôle ?
Alors sur la partie programmation, on est une petite équipe d'une demi-douzaine de personnes et on cherche à programmer, enfin tout simplement, voilà, faire la programmation musicale, artistique, parce qu'on s'occupe aussi des comptes sur tout le temps du festival. Et après, sur la partie, le Carrefour de la Galizie, c'est une des associations qui organise de manière plus structurelle le festival. Et donc là, je suis administrateur au sein de cette association qui va, voilà, pendant toute l'année, œuvrer à monter cette grande fête sur ces deux jours.
Et alors, une question, pourquoi le nom Galizie en fait, et pourquoi est-ce qu'il est né à Monterfil ?
Alors, Galizie en fait, c'est en rapport avec le Pays Gallo. Donc tout ce qui est la culture du Pays Gallo, donc c'est l'est de la Bretagne. C'est vrai que souvent quand on pense à la Bretagne, on va penser le breton et puis toute la partie ouest de la Bretagne. Et donc là, c'est toute la partie, et donc l'Ille-et-Vilaine fait partie du Pays Gallo, mais qui descend jusqu'en Loire-Atlantique, et on le retrouve aussi dans le Morbihan et dans les Côtes d'Armor. Et donc le Pays Gallo, c'est la langue, c'est la culture, c'est une musique qui n'est pas exactement la même que dans le Finistère, par exemple. C'est des danses qui ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a aussi tout ce qui est le terroir au niveau de la cuisine.
Alors, quelle était l'ambition de départ quand ce festival est né, précisément ?
Et bien, en fait, à la base, c'est un couple de sonneurs, donc de musique traditionnelle bretonne, Bignou Bombarde, Christian Alex et Jean Baron, donc deux musiciens relativement connus quand même dans le milieu, qui ont souhaité organiser un concours de sonneurs. Donc en 1976, et donc ils ont souhaité organiser un concours, ils l'ont organisé à Monterfil. Alors là, pour le coup, je ne sais pas pourquoi ils sont allés là-bas. Et puis à côté de ça, ils se sont dit, bah tiens, on va faire aussi un bon repas festif, et donc on va griller un cochon. Et en fait, la genèse, c'est ça, c'est ce concours de musique, et le repas, et la fête qui est autour d'un repas.
Il y a près de 25 000 personnes qui vont en moyenne au Festival Galizie, en fait. Ce succès, il a mis du temps à se construire ou il a été presque immédiat ?
En fait, ça s'est dessiné en plusieurs années, parce que vous imaginez bien que de 1976 pour arriver jusqu'en 2022 à plusieurs dizaines de milliers de personnes, il a fallu du temps. Après, il y a eu le festival était à un moment était dans le bourg du village, et jusqu'à la 20e édition, ça s'est tenu dans le bourg du village. On va dire qu'au moment de la 20e édition, il y a eu un excès. Ça a très très bien marché. Et là, les organisateurs à l'époque ont dit on fait une pause parce qu'on ne maîtrise plus rien. Et donc là, ils ont été dans une pré à côté de la salle de la Bétanger à Monterfil, ce qui a donné la possibilité d'avoir plus de place, plus d'espace et de possibilité d'accueillir. Et j'ai un peu l'impression quand même depuis 10-15 ans, on est à notre seuil. En fait, on ne cherche pas à avoir plus grand, on ne cherche pas à développer en termes de fréquentation, parce qu'on a notre fréquentation qui est là et qui correspond à la taille et au souhait de notre festival.
Pourquoi le fait de réunir toutes les tranches d'âge est-ce autant important pour vous quand on voit la programmation avec des jeux pour enfants et aussi le fait que ça puisse accueillir des personnes âgées par rapport aux traditions ?
En fait, c'est vraiment la genèse de la chose, c'est que c'est vraiment la grande fête comme on peut l'imaginer. On y va avec ses parents, il y a les grands-parents qui viennent, c'est vraiment le côté intergénérationnel. C'est même pas voulu, j'ai envie de dire, on ne le travaille pas, mais c'est juste un état de fait, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi même au sein de nos bénévoles. Là maintenant, en plus, il y a eu beaucoup de renouvellement, vous imaginez bien, avec le Covid, les gens se sont un peu pris du temps. Il y a des gens qui étaient bénévoles depuis 1976, qui ont pris du recul. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve les petits-enfants qui sont maintenant. Il y a eu les grands-parents, les parents qui sont là. Et maintenant, on retrouve les petits-enfants qui sont aussi à donner un coup de main. Donc voilà, c'est quelque chose qui est dans la genèse même. Je ne sais pas dire autre chose que c'est pas, en tout cas, c'est pas recherché.
Une organisation d'un festival, ça se travaille. À partir de quel moment, en fait, vous commencez à anticiper la prochaine édition de Galizie, en fait ?
Eh ben, je peux déjà vous dire que cette année, on va commencer à y réfléchir le 7 juillet.
C'est tôt.
C'est qu'en fait, directement, quand l'édition est passée, la semaine qui suit ou la semaine d'après, on se réunit pour se faire ce qu'on appelle, nous, un bilan à chaud. Donc voilà les points qu'il va falloir travailler. On ne cherche pas les solutions ce jour-là, mais dès le 7 juillet, on se dit voilà les points qu'il va falloir travailler pour l'édition suivante. Parce que comme tout festival, on travaille 12 mois pour 2 jours, 3 jours, Et après, ben, on n'a pas le temps de se remettre en de retester des choses. Quand on les teste, c'est grandeur nature. Donc en fait, voilà, dès le mois de juillet, on commence déjà à se projeter dans l'édition suivante. Et le travail, par exemple, nous, sur la commission programmation, pendant tout l'été, on écoute, on va voir d'autres festivals, on écoute ce qui se fait et on commence à travailler réellement à partir de septembre, en fait. Donc c'est toute une saison complète.
Le programme est important entre les sports bretons, le Fest Noz, il y a également les contes, le concours de cidre et de jus de pomme, oui. Ou le Fest Days, donc le festival de jour, ce qui est original. Un festival avec une aussi grande programmation a forcément un certain nombre de personnes pour veiller au bon déroulement de cette mobilisation. Combien est-ce que vous êtes pour organiser ce festival ?
Alors, il y a deux temps, bien évidemment. Voilà, quand je vous dis qu'on travaille dès le mois de septembre, tout le monde n'est pas mobilisé en septembre, bien évidemment. Donc là, on est un noyau dur d'une trentaine, cinquantaine de personnes avec des pôles, des équipes différentes. Ceux qui, moi, je ne me demandais pas comment ça va se passer des fois toujours dans les commissions qui s'occupent de la nourriture. Mais en tout cas, eux, ils y travaillent tout au long de l'année. Donc tout au long de l'année, on va dire que c'est 30 à 50 personnes qui œuvrent chacun un peu de leur côté. Et puis c'est là où le conseil d'administration et le comité de pilotage entre les différentes associations met tout ça en musique. Et sur le temps du festival, vraiment le temps fort du festival, on est à entre 5 et 600 bénévoles.
Le fait de créer vos propres boissons comme la Godinette, j'ai vu ça avec notamment la fameuse recette. Est-ce que c'est une manière de laisser votre marque auprès de celles et ceux qui viennent profiter de votre festival, de mettre en avant votre originalité et votre aspect créatif?
Ouais, la Godinette que beaucoup dans le bassin rennais ont bu au moins une fois dans leur vie, un apéro rafraîchissant l'été. Ça a été créé en 1977-1978, donc vous voyez, juste après les premières éditions, par Simone Morand, donc, qui a œuvré pendant toute sa vie pour la protection du patrimoine gallo. Si vous passez rue Vasselot à Rennes, il y a une petite pancarte, un petit mot sur un immeuble où elle a vécu. Et donc, ce qui montre aussi qu'il y a eu une reconnaissance aussi, même au niveau des pouvoirs publics et de son action. Et donc, elle avait créé cette recette de cet apéritif breton du pays gallo. Donc voilà, c'est rigolo que ça passe des générations en génération. Quand on parle de marque, à un moment, on s'était posé la question, est-ce qu'on devait faire un truc autour de ça? On n'a rien fait parce qu'elle vit d'elle-même, la Godinette. Bon, des fois, on a vu des recettes avec de la banane, ça nous choque un peu quand même.
C'est sûr que c'est différent et que ça sort de la Godinette.
Clairement.
Je vois que votre programmation met en avant des jeux et sports bretons, ainsi que celtiques. Pourquoi est-ce primordial de sauvegarder le patrimoine culturel breton, et plus particulièrement le patrimoine culturel gallo?
Il y a longtemps eu l'idée de vouloir le sauvegarder. Là maintenant, on est pour. C'est aussi une mise en avant parce que voilà, je pense que quand on pense tradition bretonne, on va naturellement aller vers la basse Bretagne, donc Morbihan, enfin toute la partie ouest de la Bretagne. Et alors que le pays gallo a quand même beaucoup de choses à défendre, à revendiquer, que ce soit musicalement, que ce soit en termes de danse, de nourriture, de la langue bien évidemment, qui est très importante. Et donc on a eu un moment peut-être à le défendre. Là maintenant, on est vraiment dans la valorisation de ce qui se fait pour voilà, donner une plus belle image possible. Et les jeux sont partie intégrante pour nous de la fête. Voilà, il y a vraiment les trois piliers avec la musique, les contes et puis les jeux et la nourriture. Vous voyez, ces trois pôles-là.
La danse traditionnelle et la musique bretonne sont fortement présents dans la programmation. Est-ce que c'était le cas au tout début du festival, cette volonté de mettre sur le devant de la scène justement la culture bretonne?
Bah oui, comme je vous l'ai expliqué, c'est à la base, c'est un couple de sonneurs de musique bretonne qui ont créé ça. Donc c'est vrai que la base est vraiment autour de la tradition de musique bretonne, de la danse bretonne. Et avec les années, on a cherché, les organisateurs, même avant même que j'entre dans l'organisation, à s'ouvrir à d'autres styles de musique, à d'autres musiques traditionnelles du monde, d'autres musiques populaires du monde. Et c'est vrai que c'est là où on a toujours plaisir à faire venir des groupes qui viennent d'autres horizons que la pure horizon breton. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous de le faire.
La jeunesse est aussi active dans votre festival, avec notamment le rugby strob qu'il pratique. Alors, quel en est le principe et si vous pouvez nous le dire, quelle est son origine et son histoire?
Alors, le rugby strobette, j'ai pas l'origine, l'histoire. Je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir une idée comme ça, mon terre-fil, de dire tiens, on va faire quelque chose de rigolo. Le principe, bah, c'est faire du rugby dans un terrain de boue avec les pieds attachés. Et logiquement, ça se tient tous les deux ans. Donc là, comme après tout, les péripéties qu'on a tous vécues, on a tous besoin de se défouler depuis deux dernières années. Donc là, on a des équipes qui se sont dit il faut qu'on se fasse un rugby strobette cette année. Donc Donc il y aura du rugby trop bête, donc ça, c'est pas la taille d'un terrain de rugby, hein, c'est beaucoup plus petit, ça va faire 20 mètres de long. On a les pieds attachés, on a de la boue, on a un ballon, et voilà. Et on s'amuse beaucoup à se rouler dans la boue, il y a presque un catharsis d'enfantine qui se trouve là-dedans.
Et bien que le meilleur gagne dans ce cas-là, clairement. Pour le rugby, c'est trop bête. D'une manière plus personnelle, quel est votre souvenir le plus marquant concernant Galizia en fait, et aussi le plus positif et le plus négatif?
Ah, le plus marquant, il y en a beaucoup, parce que moi j'ai la chance d'être à m'occuper d'une scène où il y a beaucoup de musiciens, des groupes, donc j'ai vraiment cette chance-là. Et donc les plus marquants, bah, c'est les groupes qu'on accueille, c'est les sourires des artistes et les sourires des gens. Je sais que dimanche après-midi, à un moment, je vais regarder le public et ils seront heureux, et c'est ça. Après, j'ai des souvenirs qui sont très personnels, mais voilà, pour moi, c'est le sourire de voir que des gens qui viennent de la campagne bretonne, dimanche, ils vont découvrir une chanteuse qui est originaire d'Algérie, qui est à Marseille, et là, je sens que ça va être un vrai plaisir pour moi. Les mauvais souvenirs, on n'en a pas. Franchement, j'en ai pas. Autrement, j'y retournerai pas. Donc, non, j'en ai vraiment pas.
Donc, sur cette note positive de partage, justement, de la musique et des cultures, merci beaucoup, Gwendal Chevalier, d'être venu sur Syllab.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes administrateur pour Carrefour de la Galizée et aussi membre de la programmation.
Tout à fait.
Enfin, on rappelle que le festival se tient les 25 et 26 juin 2022 à Monterfil, avec un programme adapté à tous, des danses à la musique bretonne en passant par des activités sportives. Pour les plus curieux, n'hésitez surtout pas à aller sur le site du festival, c'est galizie-monterfil.bzh.
Voilà, et juste une petite précision, le dimanche, tout est accès libre, c'est ouvert, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez venir avec votre pique-nique, on ne va pas vous mettre dehors. Donc venez et faites-vous plaisir.
Et aussi tester le cochon gris le dimanche 26 juin.
Clairement.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur Radio Syllab.
Au revoir.